Merci Seigneur. On va maintenant ouvrir la parole de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on puisse le faire dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. À partir du verset 10. Ésaïe chapitre 55 verset 10. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu, c'est une bénédiction? Si vous n'en êtes pas convaincu, lisez ce verset avec moi. Ésaïe 55, verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Si vous le permettez, je vais prier le Seigneur encore une fois. Éternel, nous avons ouvert ta parole. Merci parce que nous voyons au travers de ce verset déjà que ta parole est une bénédiction. Mais Seigneur, nous ne voulons pas la recevoir avec un cœur fermé, au contraire. Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur dans ces moments, que par le Saint-Esprit, tu puisses pénétrer tout notre être, et que, Seigneur, cette pensée divine, que tu puisses la communiquer à tout notre être, pour que ta parole manifeste son effet bienfaisant dans chacune de nos vies. Merci, Éternel, pour ce que tu vas faire. Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel. Elle ne retourne point à moi sans effet. J'étais interpellé cette semaine quand je me suis arrêté sur ce passage et que dans la version littérale, j'ai vu qu'il était dit « elle ne retourne point à moi à vide ». C'est-à-dire que dans une situation où il peut y avoir du vide, la parole de l'Éternel, obligatoirement, elle doit communiquer quelque chose. Elle ne retourne pas sans effet. Il y a quelque chose qui se passe quand nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Est-ce que c'est possible qu'on puisse entendre la parole de Dieu et ne rien recevoir? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Combien de personnes sont peut-être venues dans ce lieu, ont entendu la parole et sont reparties dans le monde, tels qu'ils étaient, parce que leur cœur était fermé? Est-ce qu'il y a des situations maintenant autour de nous qui peuvent nous amener à connaître des manques, des vides dans notre cœur? Des situations où on est vidé de nos forces, où on est privé de quelque chose qu'on devrait avoir. Est-ce qu'il y en a des situations autour de nous? Est-ce qu'il y en a même dans nos propres vies? Il peut y en avoir. Et on va voir une situation qui est racontée justement par la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4. C'était une dame, une veuve, qui a été privée de certaines choses, mais qui a accueilli la parole de Dieu dans sa vie et qui a été bénie. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Regardez de quelle façon cette femme a réagi dans son épreuve. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je pour toi? Dis-moi. » « Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui y restera. Amen. » Amen. Est-ce que cette femme connaissait une situation où elle était privée de certaines choses, des vides dans sa vie? Ben oui, c'est évident. Déjà, elle a connu le deuil, la privation d'un être cher. Et sûrement que chacun d'entre nous avons déjà connu une situation semblable où on connaît ce vide affectif dans notre vie parce qu'on perd une personne que l'on aimait. Mais combien c'est bon de savoir que ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que sa parole ne nous renvoie pas à vide. Sa parole veut nous communiquer quelque chose, quelle que soit la situation la plus difficile soit-elle que nous traversons. Mais avant de pouvoir étudier en profondeur cette réaction de cette femme, j'aimerais qu'on puisse regarder à Élisée d'abord. Élisée qui pose pourtant des questions un peu particulières. Il a posé cette question: « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et avant de savoir ce que la femme avait dans sa maison, j'aimerais regarder avec vous ce qu'Élisée, lui, il avait dans sa maison. Et la maison, ça nous parle de ce qu'on a dans notre cœur. Et vous comprenez bien que c'est ça l'image. Vous savez que quelques chapitres auparavant, au chapitre 2 en particulier, c'est le moment où Élie transmet à Élisée son ministère. Élisée demande cette chose particulière, cette chose audacieuse, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Pour ceux qui étaient là mardi, vous vous souvenez de ces passages qu'on a lus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a béni cet homme parce qu'il avait une soif de connaître l'onction de Dieu sur sa vie. Il avait une soif de continuer le travail qu'Élie avait commencé. Et parce qu'il a persévéré, parce qu'il s'est consacré, parce qu'il a tenu bon, cet homme, il a connu cette onction sur sa vie. Ce qui fait qu'à un moment donné où cette femme-là est dans le besoin, Élisée peut apporter quelque chose. Non pas par ses propres forces, mais parce qu'il a reçu quelque chose qui vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison d'Élisée? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Élisée? Eh bien, il y avait cette communion avec le Seigneur. Il y avait cette marche continuelle avec son Seigneur. Quand vous étudiez tout le ministère d'Élisée, vous vous rendez compte qu'à de nombreuses reprises, il était là avec cette connaissance de Dieu, que Dieu était obligé d'intervenir parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Lisez avec moi, par exemple, le psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Est-ce que vous pensez que Élisée a pu lire ce psaume? Et Élisée est arrivé à peu près une centaine d'années après le roi David qui a écrit ce psaume. Donc sûrement qu'il a pu lire ces passages, il a pu entendre les chansons quand il prenait la voiture. Je prends une image, hein. Il pouvait mettre le CD de David et écouter ce passage dans sa voiture. Regardez ce qu'il est dit. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Et je crois qu'Élisée, non seulement il avait cette communion continuelle avec son Seigneur, mais il avait la connaissance de Dieu, il connaissait le caractère de Dieu. Il savait que Dieu était celui qui voulait pourvoir à celui qui avait la crainte de son nom. Et c'est pour ça qu'il pouvait intervenir dans ces situations, Élisée. Regardez dans le psaume 46, une autre pensée qui est donnée. Psaume 46, verset 2. Il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que vous connaissez ces versets? C'est bien de les connaître, mais combien c'est bien de les avoir vécus et expérimentés déjà dans notre vie. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire que quelle que soit la détresse que je peux connaître, Dieu sera toujours le secours dont j'ai besoin. Élisée connaissait ces choses, il avait la connaissance du caractère de Dieu qui était prêt à pourvoir, prêt à protéger ses enfants s'il y avait des moments difficiles, mais il avait aussi cette clairvoyance spirituelle. Il avait aussi cette vision claire de la réalité spirituelle dans les situations. Quand on regarde toutes les fois où il a reçu une parole de connaissance, une parole de sagesse pour régler telle ou telle situation, quand il y a la famine à Samarie, tout le monde est dans la crainte. Il y a même des femmes qui se sont engagées à manger leurs enfants tellement elles avaient faim. Et quand tout le monde était dans le désespoir, dans la difficulté, cet homme avait la vision que le lendemain, la famine était réglée. Est-ce que c'est pas fou? C'est sûr, quand on n'a pas conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel, on peut se dire, mais oui, il est fou. Mais quand on sait que cet homme, il a une communion avec Dieu, il connaît le Dieu qui pourvoit, on pouvait faire confiance à cet homme. Toutes les fois, vous lirez tous ces premiers chapitres de Deux Rois, toutes les fois où cet homme a été utilisé par Dieu en recevant de Dieu une pensée précise par le Saint-Esprit qu'il a communiqué la grâce. Cet homme a amené la bénédiction. Je vous donne des exemples. Mais cet homme, a eu cette clairvoyance pour discerner ce qui allait pas déjà. Vous savez qu'il faut déjà la clairvoyance pour accepter les choses quand elles ne vont pas. Parce que malheureusement, il y a des gens qui n'acceptent pas quand ça ne va pas. Quand il y a l'épreuve, ils refusent l'épreuve. Ils veulent faire comme si tout va bien. Au lieu de dire non, Seigneur, j'accepte l'épreuve. Je crois qu'il y a des temps qu'on peut vivre qui peuvent être difficiles. Mais je l'accepte. Mais je ne veux pas me laisser abattre non plus. Et quand on voit que toutes les fois où il est intervenu, il a accepté de voir le vide qu'il y avait dans la situation. Il y a une fois, il y avait les eaux qui étaient mauvaises. Et il y a une fois, il n'y avait pas d'eau du tout. Il y a une fois, il y avait la famine. Il y a une fois, il y avait l'absence affective d'un enfant. Il y a eu la mort d'un enfant. Il y a eu la maladie d'un ennemi, le plat empoisonné, le manque de pain, l'absence de protection humaine. Il y a toutes sortes de choses qu'a connu cet homme. Mais il ne s'est pas laissé abattre par le côté négatif. Et c'est ça, des fois, là où nous, on n'y arrive pas. C'est qu'on est fort pour voir ce qui ne va pas, mais on n'est pas fort pour voir que Dieu est puissant. Et cet homme était tellement proche de Dieu que même dans les situations compliquées, il savait que Dieu, lui, il avait un moyen. Et ce n'était pas le moyen auquel nous, on aurait pensé. Est-ce que vous auriez pensé à mettre du sel dans des eaux mauvaises pour les assainir ? Est-ce que scientifiquement, ça parle ça ? Je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose, scientifiquement. Mais en tout cas, spirituellement, cet homme avait reçu la pensée qu'il fallait mettre du sel dans les eaux mauvaises. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a mis ? Les eaux ont été totalement assainies. Est-ce que vous auriez mis de la farine dans le plat empoisonné ? Vous auriez fait comme moi, vous auriez pris le plat empoisonné, vous l'auriez jeté. Et lui, il a dit non, mettez la farine. Ça nous parle de cette bonne doctrine, ça nous parle de la présence de Jésus-Christ dans une vie. Et quand on met Jésus-Christ, alors il amène la guérison. Est-ce que vous auriez pensé à jeter un bois pour faire surnager le fer ? On aurait pensé nous-mêmes se jeter pour aller chercher le fer. Et vous voyez que cet homme, parce qu'il avait cette communion avec le Seigneur, parce qu'il avait dans sa maison la crainte de Dieu, parce qu'il avait dans sa maison cet esprit de Dieu dans sa vie, il a amené la bénédiction par des moyens qu'on ne comprend pas forcément. Est-ce qu'on n'a pas besoin, chacun pour notre part, de recevoir une parole pour nous qui vient justement communiquer une grâce ? Nous devons être de ceux qui recherchent une parole de révélation. Est-ce que vous aspirez à avoir les dons spirituels ? Est-ce que vous les désirez ? Est-ce que vous désirez les pratiquer ? Mais pourquoi vous les désirez ? Vous savez que les Corinthiens, eux, ils avaient tous les dons, mais il leur manquait un peu d'amour. Il leur manquait un peu de sagesse. Mais c'est bien quand même de rechercher les dons spirituels. Combien nous sommes interpellés quand nous voyons la vie d'Élisée, les expériences qu'il a faites, rien qu'une expérience de sa vie. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de la vivre ? Pensez pas ? Parce que cet homme était près de Dieu, tout simplement. Mais maintenant, je voudrais m'intéresser à la veuve. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de la veuve qui a fait que la parole de Dieu n'est pas retournée à vide dans cette maison, mais elle a amené la bénédiction. Vous savez que l'histoire, on vient de la lire, l'huile a été multipliée dans cette maison. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a pu se passer ? Alors que dans d'autres maisons, et peut-être qu'ils avaient aussi un pot avec de l'huile, mais il n'y a rien qui s'est passé. La première chose que nous voyons dans ce passage, qui est évident qu'il y avait dans la maison de cette veuve, c'est qu'il y avait la crainte de l'Éternel. Et le don spirituel tout à l'heure nous a rappelé l'importance et la bénédiction que c'est que de craindre Dieu. Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Quelqu'un qui a peur de Dieu, il s'éloigne de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte, le saint respect de Dieu, il n'a qu'un désir, c'est se rapprocher de Dieu. C'est ça la différence. Il connaît tellement le Seigneur qu'il sait de quelle manière. Il sait ce qui plaît au Seigneur, il sait ce qui ne plaît pas. Mais dans cette maison, il y avait la crainte de Dieu. Le mari qui est décédé, la femme, elle va dire, « Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Vous savez qu'il était un fils de prophète. Ça veut dire qu'il avait dédié sa vie, cet homme, pour servir en tant que prophète pour son peuple, en tant que prédicateur. Mais vous savez qu'à l'époque d'Élisée, à l'époque d'Élie même, ce n'était pas une chose facile que de vouloir s'engager à servir le Seigneur. Parce qu'il y avait des rois qui étaient pleins d'idolâtrie. Et ils étaient sûrement en danger de mort, ces personnes. Mais cet homme avait choisi de devenir un prophète. Et cet homme, en plus, il connaissait il connaissait Élisée.
Est-ce que peut-être Élisée lui avait donné des cours à l'école biblique de l'époque? On ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est que cet homme était connu d'Élisée. Élisée, dans cette histoire, c'est le type de Christ. Ça nous parle de Christ, ça nous parle de Dieu. Est-ce que nous sommes connus de Dieu? Est-ce que dans nos vies, nous pouvons dire « Oui, je connais Jésus, mais Jésus me connaît. » Est-ce que nous pouvons avoir cette certitude que nous sommes connus de Dieu? Il y a ce verset qui est fort sur mon cœur, qui dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui souffre, mais sur celui qui craint ma parole. » Est-ce que nous craignons la parole de Dieu? Parce que si c'est le cas, les regards du Seigneur, ils sont sur nous. Si, bien sûr, on a des temps de souffrance, des temps de difficulté, sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu, tout ça, on connaît. Mais ce qui attire vraiment le regard du Seigneur, c'est quelqu'un qui craint sa parole, c'est quelqu'un qui désire recevoir la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et non seulement cet homme qui est décédé, il avait la crainte de Dieu, mais c'était quelque chose qu'il avait peut-être communiqué à sa femme, ou sa femme l'avait vécu par elle-même. En tout cas, quand elle est dans la souffrance de cette femme, quand elle est dans le désespoir, et quel désespoir, elle fait qu'une chose, elle va vers l'homme de Dieu. « Viens à mon secours. » Est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller voir sa famille? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu aller voir ses amis en leur disant « Mais j'ai une dette envers telle personne, mais est-ce que toi tu peux me prêter en attendant, je vais te rembourser ?» Mais parce qu'elle avait la crainte de Dieu et parce qu'elle était au désespoir le plus total, elle allait chercher le secours auprès de l'homme de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu, ce n'est pas aussi dans le moment de détresse, de tourner nos regards vers le Seigneur? Bien sûr, ce n'est pas que ça. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans la détresse? Est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous disons « Seigneur, pourquoi ?» Ou est-ce que nous disons « Seigneur, aide-moi. Je suis vide, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. » Qu'est-ce qu'il y avait dans cette maison? La crainte de l'Éternel. Et j'insiste sur ce fait, parce qu'on entend tellement de gens aujourd'hui encore, en essayant de régler des situations, des problèmes financiers, et ils se mettent dans d'autres problèmes financiers. Vous savez qu'il y a un verset dans la parole qui dit ceci, « Malheur à celui qui augmente le fardeau de sa dette. » Combien de personnes se laissent piéger par les problèmes d'argent? Combien de personnes se font avoir parce qu'ils pensent faire quelque chose pour gagner plus et finalement ils vont obtenir moins, ils vont avoir moins de temps pour être dans la maison de Dieu, ils vont se laisser piéger par ces choses-là et ils vont s'endetter. Mais cette femme a choisi, et la crainte de Dieu dans sa vie se manifeste de cette manière, a choisi de se tourner vers l'homme de Dieu dans cette situation. Mais est-ce que Élisée était riche? Ben, il ne pense pas. Qu'il était très riche. Par contre, il était riche spirituellement, de l'onction de Dieu sur sa vie. Et c'est ça qu'elle voulait, cette femme. Est-ce que nous désirons aussi bénéficier de l'action de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous nous tournons vers le Seigneur pour avoir l'aide de son esprit, son assistance, pour qu'il puisse nous faire du bien? Alors, ayons la crainte de Dieu. Deuxième chose, dans la maison, il y avait l'honnêteté. Qu'est-ce que vous auriez dit à quelqu'un qui est dans la misère? Qu'est-ce qu'il a dit Élisée? Vous avez vu? Il lui a dit, regarde chez toi, regarde, fouille bien, est-ce qu'il y a quelque chose? Et la femme, elle commence à réfléchir dans sa maison, alors elle regarde dans telle pièce, mais non, il n'y a rien. Dans telle autre pièce, il n'y a rien du tout. Telle autre pièce, il y a une petite étagère, et sur l'étagère, il y a un tout petit vase. Cette femme est dans un besoin incroyable, et Élisée lui dit, regarde dans ta maison s'il y a quelque chose. Pour bien détruire totalement la foi que cette femme elle aurait pu avoir en elle-même. Et vous savez que combien de fois on a besoin de regarder en nous-mêmes et de s'apercevoir qu'on n'a rien. Vous avez vu le début de sa réponse, je n'ai rien du tout. Vous savez que des fois c'est tellement bon de dire devant le Seigneur, Seigneur, je n'ai rien du tout. Il y a un verset dans la loi qui disait, il ne faut pas se présenter à vide, les mains vides devant le Seigneur. Mais ce n'est pas se présenter les mains vides que de dire « Seigneur, moi-même je suis vide ». C'est se présenter avec honnêteté. Et c'est quand on fait cela que le Seigneur peut envoyer sa parole qui amène la bénédiction. Je n'ai rien du tout. Est-ce que quelque chose de vide peut justement amener la bénédiction dans une vie. Mais en lisant cette histoire, on voit que oui, plus elle a pris de vase, plus il y a eu de l'huile qui a coulé, plus elle a été bénie par rapport à cela. Mais si on lit le chapitre juste avant, chapitre 3, verset, on peut lire à partir du verset 15, c'est un moment où il y a eu une guerre, le roi d'Israël et le roi de Juda s'assemblent ensemble pour combattre un ennemi, les Moabites, et à un moment donné, ils sont dans une situation, ils sont à la guerre, mais ils n'ont plus du tout d'eau. Ils sont totalement dans la sécheresse. Et il faut appeler Élisée qui leur donne une parole particulière au verset 15. Il leur dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel, il livrera Moab entre vos mains. » Amen. Amen. Ah bon, je croyais que vous étiez endormis. Vous avez vu ce qu'il a fallu qu'il fasse, ces personnes? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse, si vous avez bien lu avec moi? Il a fallu qu'ils creusent des fosses. Il a fallu qu'ils créent eux-mêmes des vides. Pourquoi? Pour que Dieu puisse envoyer l'eau et que les fosses se remplissent d'eau et que par la suite, ils puissent boire. Vous savez qu'il y a des fois où il y a des vides qui sont dus aux circonstances. Quand on voit ce qu'elle a traversé cette femme, la perte d'un être cher, est-ce que c'est quelque chose qu'on décide? Non, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Quand on voit ce qui se passe par la suite, que les dettes qui sont là, peut-être que cet homme, il travaillait sûrement, et il prenait soin de sa famille, mais dès l'instant où il a disparu, il y avait la source de revenus qui était plus là dans le foyer, et les conséquences, c'est qu'il y avait la dette. Cette femme était vidée du point de vue financier. Le compte, il était dans le rouge. Il y a des vides qui sont dus seulement aux circonstances, mais il y a des vides que Dieu nous appelle à faire par nous-mêmes, à creuser un peu dans notre cœur et à dire, regarde là, ta consécration, creuse un peu ta consécration. Est-ce que tu n'es pas vide finalement? Creuse un peu ton amour. Est-ce que tu n'es pas vide? Et des fois, c'est à nous-mêmes de nous vider. C'est à nous-mêmes de descendre un peu de nos échelons sur lesquels on est monté et à dire avec honnêteté, oui Seigneur, c'est vrai, je suis vide. Là, je donne une telle apparence, mais au-dedans, je suis vide. Peut-être que j'ai telle parole, mais au-dedans, je suis vide. Et Seigneur, j'ai besoin que ton eau divine, tes eaux vives, puissent couler avec abondance dans ma vie. Il y a des vides qui viennent des circonstances, mais il y a des vides que nous devons creuser par nous-mêmes, par le Saint-Esprit, laisser le cœur ouvert pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous pour dévoiler ce qui n'est pas vrai, afin que l'action de Dieu se manifeste. Vous vous souvenez de ce passage? Quand Géasi regarde autour de lui et qu'il voit la ville tout entière encerclée d'ennemis. Vous vous souvenez de ce passage? C'est, pour ceux qui prennent des notes, c'est au chapitre 6, quand on voit cette histoire merveilleuse. Géasi est là, il regarde la ville, elle est encerclée d'ennemis. Mais s'il regarde un peu plus loin, il voit quelque chose d'autre. Enfin, il ne voit pas. Il voit que la montagne est vide. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il est découragé, parce qu'il voit que les ennemis. Il voit que ce qui ne va pas. Il est découragé parce qu'il pense que le roi, il aurait pu venir envoyer son armée pour les protéger, mais le roi n'est pas là. La protection du roi, les forces humaines ne sont pas là au moment où il faut. Et c'est à ce moment-là qu'Élisée prie, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. Il voit que sur la montagne qui est vide, en fait, elle n'est pas vide. Elle est pleine de chevaux et de chars de feu qui sont là, prêts à défendre l'homme de Dieu parce qu'il a la crainte de son nom. Et vous savez que des fois, il vaut mieux que ça soit vide pour que le Seigneur puisse avoir la place pour agir. Qu'est-ce qui valait mieux, qu'il y ait l'armée du roi ou qu'il n'y ait rien du tout? Mais spirituellement, qu'il y ait l'armée de Dieu. C'est évident qu'il valait mieux qu'il y ait l'armée de Dieu. Et quand il y a des vides dans notre vie, ça laisse au Seigneur la possibilité d'agir, ça laisse au Seigneur le champ d'action, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais quand on rajoute toutes sortes de choses, quand on essaye par nous-mêmes de se défendre, quand on compte sur nos propres forces, alors on empêche le Seigneur d'agir. On empêche le Seigneur de faire son œuvre. Et quel dommage. Cette femme, dans sa maison, elle avait cette honnêteté de dire « oui, je suis vide ». Et il y a des fois, c'est à nous-mêmes, je le disais, de creuser pour voir si on est vide, mais des fois, il faut aller voir les voisins et puis qu'eux-mêmes nous disent qu'on est vide. Elle allait chercher les vases vides auprès des voisins. Et vous savez, des fois, en regardant l'exemple des autres, on se rend compte que nous-mêmes, on est creux. Quand on voit telle personne qui est tellement consacrée, telle personne qui est tellement généreuse, qui passe son temps à faire du bien autour d'elle, et quand on regarde à nous, on se rend compte qu'il y a un problème. Quand on voit telle personne qui a toujours une parole de grâce, toujours remplie du Saint-Esprit pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent, et quand on regarde à nous, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Mais là, c'est comme si on prenait les vases vides et qu'on les mettait dans notre maison. Mais je ne voudrais pas rester sur cet aspect négatif. Oui, il faut être réaliste en voyant qu'on est vide. Mais la phrase qu'elle a dite, c'est « il n'y a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile ». Il n'y a qu'une seule chose dans cette maison de valeur, un vase d'huile. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que c'est bien s'il n'y a qu'une seule chose dans une maison? Ça dépend de la chose, on est d'accord. Si la seule chose qu'il y a dans ma maison, c'est un rubis de 1000 carats, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, imaginez. Même si vous êtes un peu dans la famine à côté, ce n'est pas trop grave si vous avez le rubis. Là. Comprenez. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Est-ce que ce qu'il y a dans la maison est quelque chose de valeur? Vous savez que le vase d'huile qui est dans cette maison, ça représente Jésus-Christ. Jésus qui a été ce vase de terre, qui a abandonné sa divinité, on l'a chanté encore ce matin à travers des cantiques, qui a abandonné sa gloire, qui a abandonné toutes ces choses pour venir sur la terre, pour mourir à la croix, pour que par sa vie il puisse amener la bénédiction sur ses enfants, sur tous ceux qui croiraient en lui, sur tous ceux qui auraient la crainte de son nom. Et cette femme, elle avait dans sa maison ce vase d'huile. Ça nous montre que cette femme, malgré le vide qu'il y avait autour d'elle, malgré le vide qu'il y avait dans sa propre vie, il y avait quand même, dans un coin de son cœur, cette connaissance de Jésus, cette connaissance de Dieu. Et elle avait cette communion avec le Seigneur. Et le miracle, il a eu lieu seulement quand elle a pris le vase et quand elle a utilisé, selon la parole de Dieu, pour que ce vase puisse communiquer son effet. Une seule chose est nécessaire, a dit le Seigneur à quelqu'un. Vous vous souvenez, c'était à qui? À Marie, qui était assise au pied du Seigneur. Et il a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part. Est-ce que, frères et sœurs, vous avez choisi, même si vous êtes vidés par les circonstances et par les difficultés, est-ce que vous choisissez toujours de rester au pied du Seigneur? De rester dans la présence du Seigneur, d'avoir cette communion avec Dieu qui fait que même si vous êtes dépourvu de tout, vous avez le principal. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction, quelque chose de valeur, que d'avoir l'assurance que notre vie, notre nom est inscrit dans le livre de vie, que notre vie a été purifiée par Jésus-Christ, et que même si dans ce monde nous ne possédons rien, nous avons toutes les richesses et tout l'héritage dans le ciel, parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de tellement merveilleux et de tellement de valeur et qui peut amener à se multiplier dans notre vie? Je crois que oui. Je crois que nous avons besoin souvent de considérer, même si ce n'est pas grand-chose, « Seigneur, qu'est-ce que je suis? Je ne suis qu'un petit vase. Mais par contre, j'ai accepté ton salut. J'ai accepté cette nouvelle naissance par ton esprit. » Seigneur, alors tu peux faire ton miracle, tu peux faire ton action dans ma vie. C'est vrai que je suis vide par moi-même, mais Seigneur, je sais que ton esprit est celui qui peut me renouveler. Qu'est-ce que nous avons dans notre maison? Cette femme, elle avait la seule chose qui était nécessaire. Vous savez, David a dit un petit peu la même chose dans le psaume 27. Il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Est-ce que nous avons ce désir? Ça ne veut pas dire d'habiter, de sortir les lits de camp pour habiter dans l'église. Vous avez bien compris que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. C'est ce moment continuel dans notre vie où on veut être dans la présence de Dieu, dans cette communion avec lui. Et David, il avait compris qu'une seule chose était nécessaire, c'était ça, d'être dans communion avec le Seigneur. D'avoir dans au fond de notre cœur le vase d'huile, la présence de Dieu qui coule et qui nous amène à avoir ces eaux vives qui coulent hors de nous. Paul l'a dit d'une autre manière. Je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Combien c'est important que nous puissions considérer que la seule chose dont nous avons besoin, la seule chose qui est vraiment nécessaire et suffisante dans notre vie, c'est la présence de Jésus-Christ et la compréhension de son sacrifice sur le bois de la croix pour nous. Parce que si nous avons compris ça, alors quel que soit l'état de vide que nous vivons dans notre vie, le Seigneur est capable de pourvoir. Le Seigneur est capable d'intervenir de manière miraculeuse et surnaturelle, parce que si nous sommes tellement dépassés rapidement, lui n'est jamais dépassé. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Qu'est-ce que nous avons dans notre maison? Vous savez, à un moment donné, Josué et le peuple d'Israël, quand il était dans la conquête, il avait confiance dans ses propres forces. Après avoir remporté une certaine victoire sur Jéricho et sur d'autres villes, ils se sont dit, mais tiens, avec la ville d'Aï, ça va être la même chose. Et ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils n'ont pas considéré qu'il y avait un problème dans le peuple d'Israël. Ils n'ont pas été à l'écoute. Et quand ils ont combattu avec leurs propres forces, alors que c'était une petite ville, la victoire était gagnée d'avance, mais ils ont perdu. Qu'est-ce qu'il y a dans notre maison? Est-ce qu'il y a de la confiance dans nous-mêmes? S'il y a ça, alors ça ne marchera jamais. Vous vous souvenez ce qu'a dit Jésus à ce jeune homme riche? Il lui a dit, il te manque une chose. La maison de ce jeune homme était remplie. C'était merveilleux quand on voyait sa vie, c'était super, il connaissait la loi, il essayait d'obéir à la loi, il y avait des richesses dans sa maison, c'était merveilleux, il avait des meubles de luxe, etc. Mais il manquait une chose, il manquait Jésus-Christ, en premier dans sa vie. Et on peut avoir notre maison remplie de toutes sortes de choses, plus ou moins bonnes, mais s'il manque Jésus. Et si Jésus n'est pas à la première place, alors ça ne sert à rien. Et cet homme, qui avait accès à la source d'eau vive de la présence de Jésus-Christ, il est reparti tout triste. Vous imaginez? Alors que cette pauvre veuve, elle n'avait qu'un petit vase d'huile. Mais c'était ce qu'il fallait. Parce que c'est ce qu'elle avait besoin dans sa vie. Cette communion avec Dieu. Dans cette maison, il y avait l'obéissance. Il y avait la foi de cette femme qui s'est traduite par son obéissance. Quand Élisée lui a dit ce qu'il devait lui dire, « Voilà, il faut que tu ailles demander les vases chez tes voisins, en nombre, et il faudra que tu fermes ta porte. » Et qu'est-ce qu'elle a fait? Dès l'instant où il a arrêté de parler, elle s'est mise à l'œuvre. Tout de suite, sans poser de questions, sans réfléchir si c'était dur, si c'était pas dur. Est-ce que c'était facile que d'aller taper chez les voisins et de dire « Donnez-moi vos vases vides. » Est-ce que c'était facile? Pas forcément, il fallait qu'elle essaye d'expliquer. Peut-être que ça a été l'occasion de rendre témoignage par avance, parce qu'elle avait la foi que Dieu allait agir. Peut-être qu'elle n'a rien dit, on ne sait pas exactement. En tout cas, elle a fait. Et sa foi, dans sa foi, elle a manifesté son implication. Vous savez que souvent, on attend que Dieu fasse tout. On attend que Dieu nous assiste, mais Dieu ne fait pas de nous des assistés. Dieu, il est celui qui nous secourt quand ça ne va pas, mais il ne fait pas de nous désassister. Et il a demandé que cette femme, elle se mette au travail. Qui c'est qui a versé l'huile dans les pots? C'est elle. Qui c'est qui a tenu les pots pour que l'huile coule bien dans les pots? C'est ses enfants. Elle s'est impliquée elle-même dans l'obéissance. Elle a impliqué même ses enfants. Encore récemment, on m'a raconté une expérience. Quelqu'un qui m'a dit, j'avais quelque chose sur mon cœur que je voulais demander par rapport à mon travail. Et j'ai impliqué mes enfants pour qu'ils puissent faire une expérience avec le Seigneur. Et le résultat, c'est que le Seigneur a exaucé la prière. Je pense qu'il aura l'occasion de le raconter, je ne vous dis pas qui c'est, mais en tout cas, c'est merveilleux quand on choisit d'impliquer dans nos vies, dans les expériences que l'on veut faire, nos enfants, pour qu'ils voient de leurs propres yeux que le Seigneur est celui qui est puissant pour agir. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant. Mes parents, qui étaient dans des situations particulières, ils disaient, allez, on va prier tous ensemble. Et on voyait le Seigneur agir. Et c'est des choses qui sont restées gravées dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Et qui ont fait que quand moi tout seul, même enfant, je me suis retrouvé dans la panade, j'ai pu dire, Seigneur, tu es vivant. Alors, interviens ma situation. Et le Seigneur l'a fait. Et le Seigneur nous dit que nous devons avoir la foi d'un enfant. Mais combien c'est bon d'impliquer notre famille. Quand ça ne va pas dans la famille, quand c'est toute la famille qui est touchée, combien c'est bon d'impliquer la famille pour que la famille tout entière voit la gloire de Dieu. Et que ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont pu dire par la suite? Est-ce qu'ils n'ont pas pu louer le Seigneur? Même s'ils étaient jeunes, on ne sait pas. Mais ils ont dit, mais oui, le Seigneur est vivant. Il exauce les prières. Quand on réalise tous ces passages, ah oui, combien on est défié de dire, Seigneur, oui, je veux t'obéir. Qu'est-ce qu'il y a dans notre maison? Je ne veux pas être plus long, mais je voudrais qu'on reste sur cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans notre maison? On va peut-être fermer les yeux. Qu'as-tu dans ta maison? Une question toute simple. Mais quand on réfléchit à ce que cette femme avait dans sa maison, on comprend pourquoi Dieu a pu bénir cette femme. Malgré tous les vides affectifs, financiers, familiaux qui se profilaient à l'horizon. Cette femme a expérimenté que la parole de Dieu, elle ne retourne point à elle à vide. Elle ne retourne point à elle sans effet. Mais quand elle, la parole de Dieu, quand Dieu regarde dans notre cœur et qu'il voit la crainte, alors il peut bénir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Te demande le Seigneur. Est-ce qu'il y a la crainte de son nom? Est-ce que tu es celui qui est dans la détresse est capable de te tourner vers lui avant d'aller voir ailleurs? Est-ce que tu es celui qui, quand tout va bien, choisit de t'éloigner du mal? C'est ça la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu es celui qui choisit d'aimer le bien quand tout va bien, au lieu de se reposer sur ses lauriers? Est-ce que tu choisis d'aller encore plus loin avec le Seigneur? C'est ça la crainte. Quand on a la crainte de Dieu, on se rapproche de lui. Parce qu'on le connaît encore davantage tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Est-ce que ce n'est pas juste une connaissance de Dieu? Mais sans cette clairvoyance que Dieu veut intervenir dans ta situation. À quoi ça sert de savoir que Dieu aime si quand tu es dans la détresse, tu oublies que Dieu, tu crois que Dieu t'abandonne. Tu oublies que Dieu veut pourvoir. À quoi ça sert? C'est que la connaissance théologique, théorique. Le Seigneur te dit que dans ta maison, il y ait la crainte. Que dans ta maison, il y ait l'honnêteté de réaliser que tu es vide. Que tu es vide par toi-même. Que tu es, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu présenteras au Seigneur, c'est vide. Mais qu'il y ait dans ta maison aussi Jésus-Christ. Cette communion véritable avec Jésus-Christ. Qui va faire que même s'il y a la famine, même s'il y a le vide, même s'il y a l'épreuve, Jésus est celui qui y amène la multiplication. Quelle grâce nous avons de connaître le salut en Jésus-Christ. Et ne sais-tu pas que, alors que tu vas laisser Jésus-Christ prendre la place, la première place dans ta vie, la première place au centre de ta famille, ne sais-tu pas que tu seras une bénédiction même pour ceux qui sont autour de toi? Merci. Merci Éternel. Merci pour ta parole qui ne retourne point à toi sans effet, qui ne nous laisse point à vide, Seigneur. Ce matin, nous le réalisons encore davantage. Merci parce que, Seigneur, tu nous as donné ce récit pour que nous apprendre encore les choses que nous devons garder en nous-mêmes, les choses qui te plaisent, les choses, Seigneur, qui attirent ton regard sur nos vies, Seigneur. C'est ces choses-là que nous voulons, sur lesquelles nous voulons prêter attention, que nous voulons serrer dans notre cœur. Éternel, oui, nous voulons avoir la crainte de ton nom. Oh, Seigneur, enseigne-nous à marcher dans ta sagesse, à marcher dans tes voies tous les jours de notre vie, afin, Seigneur, que nous soyons heureux, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, goûter à la bénédiction de ta présence. Merci, oui, de nous permettre de mettre en premier dans notre vie un nouveau Jésus-Christ, de le mettre au centre, de comprendre que c'est de lui que vient la solution. Ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas de nos propres forces. Par nous-mêmes, nous sommes vides. Par nous-mêmes, nous sommes dépourvus de tout. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu qui pourvoit, quelle que soit la situation. S'il y a la famine, s'il y a un manque d'eau, s'il y a un manque d'argent dans le foyer, s'il y a un manque d'amour, peu importe, Seigneur, tu es celui qui peut pourvoir. Car tu as dit que rien ne manque à ceux qui te craignent. Ô Seigneur, ton secours ne manquera jamais dans la détresse. C'est ces paroles que nous voulons serrer, Seigneur, ce matin sur notre cœur. Tu vois, Seigneur, mes frères et mes sœurs, ce matin, qui sont dans cette difficulté, qui se retrouvent comme cette femme dans ce désespoir immense. Seigneur, aide-les à te mettre en premier dans leur vie. Aide-les à regarder à toi comme étant la seule solution pour la bénédiction de leur vie. Ô Jésus, oui, qu'il y ait dans leur maison l'obéissance à ta parole, qu'il y ait l'obéissance à tes voix, qu'il y ait l'honnêteté dans leur cœur, Seigneur, et que ta gloire se manifeste dans chacune de ces situations pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen.